Merci, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation. Et puis merci aux organisateurs de cette journée pour leur sens de la programmation, de l'organisation et de l'accueil. Je les remercie vivement, ce n'est pas qu'une formule de politesse. Voilà, quelque chose de totalement différent, je dirais, comme diraient les Monty Python, qui s'y connaissaient aussi en animation, mais ils s'y connaissaient en tout, y compris en bûcheron travesti, vous le savez. Par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que je ne vais pas m'intéresser vraiment à la question du tracé, même si des questions de traits sont sans doute des points d'interaction avec la très très belle intervention de Patrick Barès que nous venons d'entendre. Alors en effet, j'ai travaillé récemment sur les rapports entre danse et cinéma, mais cette question s'origine en vérité dans une étude sur le film d'animation qui prenait pour véritable sujet les représentations du corps dans le cinéma d'animation. Donc, en remontant au début de l'histoire du cinéma d'animation, en s'intéressant à ses moments d'invention et ses pionniers, on ne peut être que frappé en effet par la permanence de la figure dansée. Que ce soit, je les passe rapidement en revue, chez Émile Reynaud, donc même dans le pré-cinéma, dans vraiment l'invention de ce qu'on appelle parfois l'animatographe, que ce soit chez Émile Cole, dont on reparlera beaucoup aujourd'hui, que ce soit chez Georges Méliès, que ce soit encore chez James Stewart Blackton, ou plus encore chez ce grand pionnier américain qui est Winsor McCay, on voit très manifestement que la danse, généralement en tant que référent du mouvement des figurines, y est permanente. Alors pourquoi ? Voilà. Plusieurs réponses sont possibles, j'en évoque rapidement quelques-unes, fragmentaires. La danse, c'est tout simplement la démonstration du mouvement. Je bouge, donc je suis. Je bouge, donc je suis animé, même, j'ai envie de dire. Et donc, tant qu'à faire, autant bouger gracieusement. C'est tout le travail que Winsor McCay fera dans ses Little Nemo et les autres films du début des années 10, sachant très bien, en effet, que finalement, le premier art du mouvement, c'est bien la danse avant celui d'être le cinéma. La magie de l'animation, tenant à la mise en mouvement de dessins ou d'objets figés ou inertes, crée évidemment chez l'animateur un besoin assez compréhensible d'aller chercher chez la danse des valeurs positives qui viennent donc en référent immédiat. Danser, c'est par ailleurs l'expression de la vie, c'est une phrase de Mercy Cunningham qui viendra bien plus tard. Mais danser, c'est aussi appréhender un nouvel espace, tester de nouvelles possibilités, le rapport au cadre, le rapport au temps. Un danseur explore à la fois son plateau et son propre espace par la danse, on le sait. Les figurines de ses premiers films vont en faire autant. Et puis surtout, la danse va permettre de revendiquer une identité à ces figurines. Le gros plan, on le sait, est une idée assez rare dans le cinéma des premiers temps, sauf l'école de Brighton, quelques Méliès astucieux et d'autres raretés. Mais pour attribuer une identité forte, le cinéma compte à cette époque, avant tout, sur le jeu des comédiens, sur l'art du pantomime, issu donc de l'univers de la représentation théâtrale. Mais il peut emprunter aussi à la danse classique, dont le langage corporel, assez stéréotypé, peut évoquer lisiblement des sentiments. Cependant, les animateurs comprennent très vite que la danse peut faire bien plus. Elle peut indiquer des sentiments, et non pas seulement les représenter. Elle peut indiquer des intentions, et puis la danse, elle donne des affects aussi. La vitesse, la puissance, la fluidité, les manifestations d'énergie, le rapport à la verticalité. Voilà autant de paramètres, d'éléments qui participent de la création de l'identité d'un personnage. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater que les naissances de la danse moderne et du cinéma d'animation sont relativement contemporaines. D'ailleurs, si on évoque les principaux fondamentaux de la danse, et j'en réfère là au grand théoricien allemand Rudolf Laban, on s'aperçoit qu'ils sont éminemment proches des notions de base du cinéma d'animation. Cartoon, en tout cas, pour l'instant. Le poids, élément fondamental, élément de travail de ces pionniers qui essaient de donner une réalité au corps dessiné. Le temps, le travail sur le timing et l'intervalle. La force, l'intensité, le dynamisme, les forces dynamogènes, comme Eisenstein les appelait quand il parlait de Disney. Et puis le flux énergétique qui est lié à l'émotion et à l'affect. Poids, temps, force, flux, voilà quatre paramètres essentiels de la théorie de la danse moderne et qui sont effectivement quatre ancrages apportant quatre points de réflexion pour l'animateur. Bref, le cinéma d'animation va comprendre très vite le potentiel de la danse pour donner une identité à ses personnages et c'est à ce point vrai que certains animateurs font de cette découverte le sujet même de leur film. Notamment, je reviens sur Winsor McCay qui avait Howl Mosquito Operates, 1912, et Gertie the Dinosaur, 1914, présentent des films. Si je devais les résumer narrativement, on voit simplement des personnages danser face caméra. Avec deux, trois petites autres astuces. Puis le spectateur qui se penchera ensuite sur la production de cartoons ne peut qu'être frappé également par l'importance de la danse dans ses courts-métrages. Il s'agit d'une vraie composante de base du cartoon classique. On voit très bien de très très nombreuses scènes de danse, de joie souvent, qui viennent parsemer le cartoon des années 20. Chez Pat Sullivan et Thomas Meur, la série Félix the Cat, bien connue par exemple, principale série des années 20. Puis de très nombreux de ragtime dansés qui vont structurer le cartoon des années 30, le cartoon des premières années parlantes, chez Van Buren par exemple, ou chez les Fleischer, plus connus, notamment ici une diane d'une série des Betty Boop. Et puis enfin, de très nombreuses scènes de danse vont venir ancrer aussi les personnages de Disney, une grande compagnie qui va se développer tout au long des années 20, exploser dans les années 30, qui utilisait pour ses longs-métrages et à partir de Blanche-Neige, systématiquement des danseuses comme référents. Et cette pratique d'ailleurs continue encore aujourd'hui dans les studios Disney. Voilà, je dresse un panorama très rapide pour vous montrer qu'à mon sens, une partie essentielle de l'esthétique du cartoon et du dessin animé se joue dans une certaine conception chorégraphique du corps qui permet d'unifier trois registres fondamentaux d'existence du personnage. Son anthropomorphisation, sa caractérisation, que je prends l'habitude d'écrire avec CH, en faisant référence au terme caractère anglo-saxon, avec cette idée de personnaliser un personnage, et puis sa sympathie, ou disons plutôt sa capacité à créer l'empathie chez son spectateur. Par ailleurs, quant à la réception générale du dessin animé, la danse permet encore, à mon avis, son harmonisation, sa rythmicité et sa virtuosité. Bref, la danse apparaît dans le cartoon comme le fondement d'un système esthétique très étudié qui vise entre autres l'accomplissement du processus d'identification tant au niveau du personnage que du récit. La kinesthésie chorégraphique, c'est-à-dire la projection du spectateur dans le geste dansé, renforçant généralement l'intention narrative. Cette identification kinesthésique fonctionne également dans le cinéma d'animation non narratif et abstrait. Je veux parler du cinéma d'avant-garde, toutes les franges de l'animation expérimentale, abstraite, Fischinger, Egeling, jusque Schwitzgebel, finalement, on vient de parler. Mais je laisse ça de côté, parce que je veux m'intéresser aujourd'hui uniquement à l'animation vraiment figurative et de figurines. Alors, je vous montre un premier extrait. Il s'agit d'un film qui s'intitule donc La joie de vivre, qui date de 1934. C'est un film curieux et un peu ambigu. C'est un film assez célèbre, un dessin animé français qui est réalisé par deux étrangers, le peintre anglais Anthony Gross et le photographe américain Hector Hoppin. Et La joie de vivre, c'est une sorte de croisement entre une symphonie pastorale et un hymne à la société moderne et technique dont l'esthétique rappelle parfois les lignes de l'art déco. Au niveau narratif, c'est très lâche. Il s'y produit un charmant marivaudage visuel à la base de danse, de musique, d'images de nature et d'éléments urbains. Deux jolies nymphettes, vous les voyez à l'écran, aux formes longues et graciles, s'amusent de l'assiduité d'un jeune homme à les poursuivre. Fait en 1934, sorti en 1935, je crois, le film, qui est d'une grâce qui impose le ravissement, vous allez voir, prend le parti de la légèreté dans une époque et une production plutôt sombre et grave. Crise économique, tension politique, nationale, internationale, c'est au même moment finalement que les récits fatalistes du réalisme poétique. Alors, petit extrait que je me plairai à commenter par la suite. Donc vous le voyez, cette légèreté de l'intrigue touche toute la tonalité du film et elle s'incarne aussi dans les options fortes de ce ballet fantaisiste. Dès leur apparition, les jeunes filles se déplacent en une danse tourbillonnante, les pas glissent sur le sol, et puis elles ne tardent pas à s'envoler pour aller pirouetter autour des câbles, bientôt suspendus d'une centrale électrique. Elles vont papillonner autour de ces fleurs, de cet endroit de baignade. Elles vont planer, exulter dans les nuages, de manière très très vaporeuse, comme ça. Le film est remarquable à beaucoup d'égards. La qualité du dessin, bien sûr, les jeux sur le relief, les reflets, les profondeurs, les perspectives, l'envergure de l'animation, les effets d'ondulation notamment, le rapport à la musique, je le cite sans rien en dire. Mais d'un point de vue chorégraphique, vraiment, le film fascine davantage par ce qui lui manque que ce qu'il apporte. puisqu'il y a un élément fondamental, hein, un de ces fameux éléments de la théorie de Laban, hein, les quatre facteurs de base de ce que Rudolf Laban appelait la cinématographie dans les années 20. Un de ces éléments fait défaut, vous l'avez remarqué, c'est bien sûr le poids. Il n'y a effectivement dans ce film aucune incidence de la gravité sur la masse du corps. C'est d'autant plus étonnant qu'à la même époque, le cartoon, et depuis une quinzaine d'années, est obsédé par la représentation dessinée de la force musculaire nécessaire à tout le corps pour résister à l'effet de gravité. Il s'agit d'ancrer les personnages au sol, de leur donner une densité, de les faire adhérer à l'horizontalité, et on le voit dans toutes les films, sur les Fleischer, les Disney, chez Mesmer, enfin. Loin de ces désirs d'enracinement réaliste de l'animation, le film de Gross et Hoppin vise une forme de sublimation des corps et des objets, quelque chose d'extrêmement éthéré, qui fait même que les images perdent un peu leur matérialité par moment. À plusieurs reprises, l'image des danseuses à l'avant-plan s'estompe pour laisser apparaître quelques éléments de décor, quelques lignes fouillantes. Les dessins dansés se font même translucides, dont le poids est tout à fait évacué de la représentation. Il n'a ni réalité physique, ni force imaginaire, ni valeur poétique. C'est précisément cette lacune revendiquée qui pousse le film à inventer un nouveau régime, qui fonctionnerait sur l'idée d'une dilatation générale de la sensation de mouvement et fait de ce dessin animé un film assez inclassable, une œuvre profondément expérimentale, comme étaient, pour des raisons finalement assez similaires, les premiers films d'animation d'Émile Cole, hein, les Cabrioles du Fantoche dans Fantasmagorie en 1908, ou comme le seront certains films de danse expérimentaux tels que ceux de Maya Deren, et par exemple The Very Eye of Night en 1958. Voilà, très utile de vous montrer ce film, je crois, parce qu'il montre comment la danse qui s'exhibe comme le destin naturel des personnages animés, est totalement constitutif d'une certaine esthétique du dessin animé. Et en même temps, le film montre comment l'animation s'empare de la danse, lui échappe, et se réinvente en n'écoutant pas ses principes de base et ses présupposés culturels. En gros, je dirais que la danse a permis au cinéma d'animation de trouver sa forme, de s'auto-inventer. Mais elle constitue aussi un terrain toujours expérimental pour tenter de nouvelles formes et de nouvelles images. C'est une tradition assez vivace d'ailleurs, hein, puisque j'étais ici même, dans cette salle, il y a à peu près 2 ans, pour venir commenter les très beaux films d'Arnaud Demeung, qui est un producteur de la région, qui a fait une très belle trilogie chorégraphique, hein, Signe de vie, à l'ombre du voile et l'évasion, et qui part en effet aussi de la question du geste dansé, il travaille de vrai danseur, de vrai chorégraphique, pour complètement bouleverser son champ d'expérimentation dessinée. Alors, voilà une introduction générale à ce que je voulais vous dire. Et à présent, je voudrais, dans la deuxième partie de mon intervention, m'éloigner un petit peu de la tradition du dessin animé pour insister sur 2 techniques très particulières du cinéma d'animation qui vont s'intéresser profondément à l'acte chorégraphique pour considérablement le transfigurer. C'est en fait un peu la démarche inverse, hein. J'ai cité jusqu'à présent des créateurs qui utilisaient la danse pour donner une série de qualités à leur animation. Mais on peut considérer dans les cas suivants que les artistes vont utiliser l'animation pour donner de nouvelles qualités à la danse. Alors, 2 cas exemplaires et 2 techniques singulières. Premier cas que j'évoque rapidement, c'est la rotoscopie. Comme chacun sait, la rotoscopie est une technique permettant de relever, hein, image par image, les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour la retranscrire sous forme de dessins animés. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire parce que je vais trop vite, le dessin vous le montre assez bien. Ce procédé permet donc de reproduire avec un certain degré de réalisme, parfois troublant, la dynamique des mouvements des sujets filmés. Cette technique est utilisée dès les débuts du cinéma, mais le procédé est vraiment développé et breveté sous le nom de rotoscope en 1915 par Max Fleischer. Il s'agit donc d'une table transparente, hein, qui permet la rétroprojection d'un film en prise de vue réelle et la possibilité de figer le défilement de la pellicule. Le dessinateur trace alors les contours de forme et les figures sur des calques. C'est grâce à cette technique que les frères Fleischer vont asseoir beaucoup de leur industrie, notamment avec la série Coco le Clown, Out of the Inkwell, qui fait début au jour de leur studio, donc entre 1916 et 1927. Puis ils vont utiliser ce procédé dans bien d'autres films, notamment dans la série des Betty Boop, et je vais m'arrêter une seconde, enfin quelques instants, sur The Old Man of the Mountain, qui est sorti en 1933, et qui est un cartoon souvent cité par les historiens de l'animation pour des raisons diverses, dont celle d'avoir attiré les foudres des ligues puritaines en raison des références jugées trop sexuelles. Il est vrai d'ailleurs qu'après 1934, les rythmes endiablés des musiques afro-américaines vont un peu disparaître des productions de Fleischer, et Betty va devenir un personnage désespérément sage et conservateur. Le film est connu aussi parce que c'est la dernière apparition dans un cartoon de Betty Boop du grand Cap Calloway, chanteur de jazz et chef d'orchestre, band leader, hein, donc en pleine ascension pour la gloire. Comme dans Minnie the Moocher 31 et Snow White 33, ces 2 apparitions précédentes, Cap Calloway est intégré à l'animation par la magie du rotoscope. À vrai dire, Calloway est présent un peu tout au long du film, mais ses régimes de présence varient. Le film commence par des images en prise de vue réelle, le montrant en concert avec son orchestre. Sa voix sera présente ensuite dans le dessin animé en s'incarnant d'abord dans un personnage de chouette, un hibou, et puis cette voix émanera d'un inquiétant vieil homme descendu de la montagne. On le sait, Dave Fleischer était particulièrement fasciné par les problèmes de synchronisation, notamment sur les musiques syncopées, à l'opposé de Disney qui préférait un répertoire beaucoup plus symphonique, beaucoup plus Big City Jazz. Fleischer aimait tant ces effets de synchronisation, c'était parce qu'ils lui permettaient beaucoup de métamorphoses, hein, et d'effets de métamorphoses dont on sait qu'ils sont souvent subversifs chez les Fleischer. Je vous montre une petite séquence de chant et de danse cruciale de ce film, hein, où donc Calloway s'incarne dans ce vieil homme des montagnes, et puis Betty Boop lui donne la réplique, c'est la voix de Bonnie Pooh ici, qui était une des trois doubleuses de l'époque. Je vous montre aussi quelques secondes de ce dessin animé. C'est vraiment la scène clé, c'est un peu la scène climax, je pourrais dire, de ce cartoon. Voilà, frustrant aussi, vous ne saurez pas si Betty Boop s'en sort. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a trois styles de dessin un peu différents, c'est parce qu'il y a toute une série d'animateurs qui ont travaillé sur cette séquence, peu importe. L'intérêt est ailleurs, et spécifiquement dans l'utilisation de la rotoscopie qui ne cache aucunement sa présence. Hein. On voit bien la différence entre l'animation sans référent et la scène dansée de l'homme des montagnes qui est tout à fait rotoscopée. Il y a bien y regarder, il apparaît que le rotoscope permet ici non pas de donner grâce, harmonie et réalisme au personnage, contrairement à l'utilisation de la rotoscopie chez Disney par exemple, qui est avant tout un outil d'étude du réalisme, du mouvement, mais qui semble ici utilisé pour un tout autre effet. D'abord, cette rotoscopie rappelle la présence de Calloway en un invité spécial, un special guest. Elle ancre la voix dans le corps. On a vu Calloway au début du film, la voix est devenue à présent celle d'un personnage, grotesque mais principal. Il faut la réancrer, cette voix. La danse rotoscopée fait surgir le corps de Calloway sous celui du monstre. D'autant que les chorégraphies... D'autant que les chorégraphies et les mouvements de Calloway sont très singuliers et très identifiables. Hein. Il est connu à ce moment-là, donc on reconnaît Calloway immédiatement à cette espèce de petite danse frosty, comme on l'a souvent décrit chez les anglo-saxons, c'est avec ses manières d'ondoyer sur lui-même. Ce faisant, le procédé réactive la drôlerie et l'intérêt du personnage. Celui-ci devient plus complexe. Il n'est pas qu'un vieux monstre de caverne pervers lubrique, il est doté de qualités sensibles. Il trouve une élégance soudaine à travers la danse. Il passe du statut de poursuivant, de harceleur, à celui de prétendant, de séducteur. Les gestes de Calloway ont quelque chose de ceux d'une parade. Il se pavane en exécutant cette fameuse torsion sur lui-même, coquette, amusante, érasée. Le monstre se transforme en charmeur. La danse modifie complètement sa perception. Il en résulte en fait une hybridation, une fusion entre la créature animée et fantasmagorique et le personnage réel et populaire. L'originalité de la séquence est que le spectateur voit les deux en même temps. C'est un dédoublement assez saisissant. Un corps double a été inventé sous nos yeux. Fugitivement, nous voyons la trace du modèle, le surgissement du référent. C'est là une assez grande étrangeté visuelle de voir surgir sous son avatar le modèle original. Les Fleischer vont s'amuser de ce jeu de perception dans leur utilisation du rotoscope, y compris dans d'autres séries que Betty Boop. Mais la danse est vraiment ici le mouvement singulier qui permet de faire affleurer la question et la présence du réel dans l'animé. Tout autre cas à présent, mon dernier cas, et toute autre technique, c'est la pixilation, qui d'une certaine manière est peut-être précisément la figure inversée du rotoscope. Le corps référent est bien là, mais c'est son mouvement que l'on a enlevé pour lui substituer une suite de positions figées, soit un mouvement animé. La pixelation trouve sa lointaine origine dans les trick films, hein, ces films reposant sur les trucages qui marquèrent les débuts du cinéma. On peut citer par exemple les trucages de Méliès, mais bon, sûrement plus celui encore de Segundo de Chamon et son fameux El Hotel Electrico, le mobilier fidèle de Bozzetti, Jobard ne peut pas voir les femmes travailler d'Emile Cole, etc. Mais c'est semble-t-il Norman McLaren le premier qui nomma pixelation la technique consistant à photographier image par image des personnages ou des objets dont les déplacements sont entièrement sous contrôle du cinéaste. Utiliser cette technique dans Voisin, Neighbours, 52, une espèce de fable antimilitariste que vous connaissez sans doute, Il était une chaise, 57, Discours de bienvenue, 61. Très curieusement, vraiment très curieusement, McLaren n'a pas utilisé la pixelation quand il s'est attaché à la danse, puisqu'il a fait une série de films de danse, vous le savez sans doute. Par contre, aux États-Unis, l'artiste Pouquet, qui est assez peu connu ici, interroge depuis début des années 80 les possibilités esthétiques de la vidéodance en recourant très fréquemment à la pixelation. Plus que toute autre technique d'animation, la pixelation contraint un étroit rapport au réel. Paradoxalement, ce procédé engendre un sentiment très très important de réification du vivant. Et je voudrais vous montrer un bref extrait d'un film précisément construit sur cette problématique. C'est un film qui s'intitule Erre Mela Mela de Daniel Wiroth, qui date de 2001, très connu depuis le milieu des années 90 pour avoir animé des matières totalement inanimables, par exemple des flacons de verre. Ici, l'œuvre prend pour base une chorégraphie de Lionel Hoche, qui est elle-même conçue sur la musique envoûtante de Mahmoud Ahmed. Vous allez reconnaître, hein, c'est un célèbre tube éthiopien qui donne son titre au film. Dans le film, c'est une espèce de chorégraphie, c'est une demande en fait à la base d'Arte qui associe un chorégraphe et un réalisateur. Je vous montre la toute fin du film. Voilà, ce qui d'emblée est remarquable, c'est finalement l'inconstance du dispositif. Il y a des moments plus ou moins animés, ou plutôt des positions qui jouent plus ou moins la chosification du corps, la figurinisation des danseurs, qui se retrouvent portés à son comble, hein, vraiment dans le mouvement final, puisque les danseurs, vous l'avez vu, deviennent de véritables toons, hein, écrasés comme des crêpes, comme le seraient les personnages des cartoons de Tex Avery ou de Chuck Jones. Wiroth n'impose pas le régime de la pixelation en permanence, il revient régulièrement au corps, à sa chair vivante, à sa respiration, à son authentique fluidité et densité, pour mieux insister l'instant d'après sur sa transformation en effigie. L'aspect saccadé des mouvements éloigne le danseur du régime humain. On est donc ici aussi dans un jeu relativement semblable de superposition entre la figurine et son corps référent, entre ce que j'ai appelé ailleurs le mouvement et la mouvance, dans un jeu perpétuel de marée entre le vivant et l'animé. En alternance, l'un devient sans cesse la trace de l'autre. Ainsi, par des chemins différents, inverses, rotoscopie et pixelation, hein, j'ai pris des films qui sont très emblématiques, hein, créés sous forme de vision fugitive, pour reprendre le terme de cette belle exposition, des tensions ontologiquement perturbantes dans les corps hybrides et extravagants des figures et des figurines dansantes. L'acte chorégraphique au sein du cinéma d'animation, qu'il soit dessiné ou en objet rotoscopé ou pixelisé, est en fait, me semble-t-il, précisément à la recherche de cette tension entre figure et figurine, entre mouvement et mouvant, entre geste et position. Alors, une remarque en forme de clin d'œil et de conclusion. De tous les films de danse et d'animation, alors que dans le fond, il n'est peut-être vraiment ni l'un ni l'autre, Pas de deux de Norman McLaren en 68 est probablement le plus célèbre, le plus vu et le plus influent. Et la raison en est sans doute assez simple, c'est que le film répond tant aux fantasmes des danseurs que des cinéastes. C'est un film qui inscrit le temps dans l'espace, qui rend visible l'invisible. Avec Pas de deux, McLaren offre une mise en image de la danse et du principe d'animation indépassable de son point de vue. Son goût pour l'analyse et la synthèse du mouvement y sont portés à leur comble. Le déploiement est tout à fait mélodique et harmonieux, déploiement des lignes, bien entendu. La réinvention du réel par l'intermédiaire du machinique cinématographique qui est également particulièrement réussi. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu, un Pas de deux met en scène deux grandes étoiles des ballets canadiens qui, vêtues de blanc, évoluent dans un décor peint en noir. Le tournage a duré que quelques jours pour des questions d'éclairage, mais le montage, lui, s'est étalé sur plusieurs mois, puisque McLaren, en laboratoire, manipulait les vitesses et les expositions, étirait, décomposait chacun des mouvements des danseurs, surimpressionnait les prises sur elles-mêmes, jusqu'à 10 fois, en les décalant de quelques photogrammes. Le résultat vise, hein, vous en avez une petite idée avec cette DIA, le résultat vise à saisir l'essence même du mouvement en gardant à l'écran, durant quelques secondes, comme en des échos visuels, les traces des mouvements et des positions des danseurs. On voit les silhouettes s'évider, se démultiplier, s'enchevêtrer, se fondre, etc. En fait, McLaren saisit là l'obsession de tous les animateurs qui travaillent à partir de l'acte chorégraphique. C'est la mise en évidence de cette fameuse tension entre figure et figurine à travers la visualité du flux. Soit, depuis les définitions de Rudolf Laban, de l'expression des champs de force multiples qui traversent le corps, des intensités toniques qui définissent un mouvement, des inflexions ou des accentuations énergiques qui qualifient les qualités de propagation, de fluidité, du mouvement dans les corps. Dans le fond, la raison de toutes ces recherches, de toutes ces expérimentations à partir de l'acte chorégraphique dans le cinéma d'animation, dit assez bien, me semble-t-il, l'obsession majeure de cette forme singulière de ce cinéma, de ce type de cinéma, peut-être même son projet programmatique, qui n'est autre que l'exploitation fantasmagorique de la mise en mouvement de l'inerte. Le cinéma d'animation a toujours pour question fondamentale celle de l'animation même. Regardez, nous bougeons, et regardez comme nous bougeons. Cette nature profondément tautologique est aussi sans doute une des raisons fondamentales de la fascination qu'exerce sur le spectateur le film d'animation. Je vous remercie pour votre attention.